Bah, je crois que ce serait pas mal que vous tourniez sur Radio Boomerang 89.7 en FM.
Chers éditeurs, chers éditrices, vous écoutez Radio Boomerang. Vous ne gourrez pas toute fréquence, c'est bien le 89.7. C'est les autres noirs.
Les autres noirs.
Les gens tout noirs.
Plus fous, plus on rit, plus on se marre.
Radio Boomerang.
89.7 Radio Boomerang.
Allez, 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 les autres noirs.
Les entonnoirs, c'est une émission pour les gens semi-normaux, semi-fous.
C'est pas seulement pour les fous, mais aussi pour les gens normaux.
Radio Boomerang.
Sur Radio Boomerang.
C'est les entonnoirs.
Chez Jean Tounouet.
La radio le plus fou du monde.
Parce que c'est des entonnoirs, parce qu'il y a plus fou dans la tête. Et ça, c'est fou dans la tête. Et plus fou, c'est des entonnoirs.
Noir, c'est noir, chuchons les gens tout noirs.
Il n'y a plus d'espoir. Noir, c'est noir, c'est les entonnoirs. Puis on rigole, puis on se marre de cet entonnoir. Puis on change, puis on fout, puis on rit.
Qu'est-ce qu'on se marre chez les entonnoirs?
Bonjour, bienvenue aux entonnoirs.
Bonjour.
Présentez-vous, Julien.
Mais je m'appelle Julien Delmer, voilà, je fais du slam et je suis très content d'être parmi vous dans l'émission des Entonnoirs.
Qu'est-ce que le slam ?
Le slam, c'est pas facile à définir. Moi, je dirais que c'est entre la poésie, parce qu'il y a un souci justement de travailler les mots, les rimes, etc. Et puis, il y a aussi quelque chose du rap, parce qu'il y a du rythme. Le rythme est très important dans le slam. Et puis, il y a aussi quelque chose de théâtral, parce que quand on est sur scène, souvent, on fait des mouvements, on fait des gestuels pour que les gens soient encore plus touchés. Donc moi je dirais que c'est un mélange de théâtre, de poésie et de rap en fait.
D'accord, et peut-on faire du slam en alexandrin ou en...
On peut écrire du slam de manière plus classique en alexandrin, ouais. Après ça dépend comment on l'interprète sur scène quoi. Moi je pense que ce qui est bien dans le slam, c'est que c'est vraiment une écriture libre. Tout le monde peut vraiment s'y essayer quoi. Moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles dans le slam. Le tout c'est d'être face au public et puis d'oser parler en public. À partir du moment où on a un micro et qu'on se décide à aller de l'avant et à surmonter un peu sa peur, et ben on fait du slam, quoi. Pour moi, c'est vraiment ça l'essentiel. C'est une parole et puis un public.
Quelle est votre principale source d'inspiration ?
C'est un peu cliché ce que je veux dire. Je dirais la vie, comme tout le monde. C'est vrai que moi, c'est vrai que mes textes sont assez politiques, mais pas politiques au sens d'une campagne électorale, politiques dans le sens où, bah voilà, moi, je me soucie un peu de ce qui se passe autour de moi, de mon environnement, des gens que je rencontre. Et c'est vrai que mes textes sont ce qu'on pourrait appeler des textes engagés. C'est-à-dire que pour moi, la poésie, même si ça doit être beau, ça doit aussi dire des choses, éventuellement dénoncer des choses, parler un petit peu des gens dont on veut pas entendre parler, dont la société veut pas parler, des exclus. Alors ça peut être effectivement l'exclusion des prisonniers, des SDF, des gens en hôpitaux psychiatriques aussi. J'ai des thèmes là-dessus aussi beaucoup d'actualité. Enfin oui, malheureusement d'actualité parce qu'il y a toujours des exclus, parce qu'il y a toujours des gens qu'on met de côté, qu'on marginalise. Et c'était ça dont j'ai envie de parler, dont je parle dans pratiquement tous mes textes. J'ai jamais écrit un texte de slam personnellement qui soit complètement neutre, c'est-à-dire qui parle juste de petites fleurs qui poussent. Pour moi c'est important les fleurs qui poussent, mais si elles poussent et si on peut encore avoir le plaisir de voir des fleurs qui poussent à l'extérieur, c'est que déjà on est libre. Et donc je veux que tout le monde puisse regarder les fleurs dehors, tout le monde soit un maximum libre quoi. C'est mon but, à mon niveau de poète hein. La poésie change pas le monde, mais en tout cas elle peut changer le mien et ceux qui m'écoutent, j'espère.
As-tu un écrit libre ou as-tu un sociologue ?
Moi, je suis plutôt un écrivain qu'un sociologue. Alors après, c'est vrai que je m'intéresse à ce qui se passe dans la société, mais je suis écrivain. Moi, je suis pas. Enfin voilà, je fais pas de théorie sur le monde. Je vois des choses, ça me touche et j'essaie de les traduire dans mes textes, quoi. Et après, d'essayer de toucher les gens, c'est de faire partager aux gens les choses qui m'ont touché, quoi. C'est surtout ça.
Est-ce que je peux te demander combien de titres tu as de près en interprétation ?
Ah, alors sur scène, que je connais par cœur, j'en ai, allez, je dirais entre une dizaine et une douzaine. À l'écrit, alors j'en ai beaucoup plus à l'écrit, je dois avoir des poèmes, je sais pas, j'en ai dû écrire 300 à peu près.
300 ?
Ouais, mais après, il y en a qui font 10 lignes, il y en a qui en font 5 pages, ça dépend vraiment, mais...
Est-ce que tu as un label ?
Non, j'ai pas de label, j'ai sorti mes écrits en indépendant, j'ai 2 livres en fait, un premier accompagné d'un CD qui est sorti chez un éditeur indépendant qui s'appelait Périplan, et un deuxième qui vient de sortir, un livre qui chez L'Agité. Donc c'est aussi 2 éditeurs indépendants. Pour moi, c'est important aussi de pas être distribué par un grand label, une grande major, parce que je pense que je pourrais pas dire ce que je dis là si j'étais obligé de rendre des comptes à quelqu'un, quoi.
Donc t'as 2 bouquins d'avance par rapport au Reading.
J'en suis sur un troisième là. Donc bah ouais, moi c'est ma passion. J'ai de la chance de vivoter de ma passion, de pouvoir payer mon loyer et remplir mon frigo en faisant ce que j'aime. Donc c'est génial, quoi. Moi je cherche pas à être millionnaire, je cherche juste à pouvoir continuer à faire ce que j'aime et voilà, à transmettre aux gens les choses qui me touchent, quoi.
Donc pour toi c'est passion, plaisir, quoi.
Ah, c'est passion, plaisir, ouais, avant tout. Et puis c'est aussi une forme entre guillemets d'engagement. C'est-à-dire que je pense que je fais ça aussi parce que je pense que c'est ma manière de prendre position, quoi. Dans le monde, voilà, je pense qu'il faut pas rester neutre, je pense.
Y a-t-il une différence entre slam et musique ? Aimez-vous la musique électronique, les choses comme ça ? Jouez-vous d'un instrument ? Je voudrais développer ça un peu.
Moi, j'en écoute beaucoup, évidemment, mais le rap, moi, j'avais 13 ans, 14 ans quand le rap est arrivé en France. Le premier album des TM, je l'écoutais tellement de fois que je crois que la cassette, on a dû l'acheter après, quoi. C'était plus possible. J'étais vraiment IAM, NTM, Assassin, c'est vraiment des groupes que j'ai écoutés énormément. Après, moi, je veux pas qu'on oppose le rap au slam, parce que je pense que c'est 2 mouvements différents, mais 2 mouvements assez proches, finalement. Je veux pas qu'on dise que le slam, c'est quelque chose de gentil, d'accessible et de doux, et le rap, quelque chose de violent. Il y a de tout. Je pense qu'effectivement, il y a de tout. Il y a des rappeurs qui ont un discours qui, pour moi, est complètement débile. Je veux dire, c'est effectivement un discours macho, un discours ultra violent et puis surtout un discours qui est complètement déconnecté de la réalité, quoi. Quand on braque des banques, on n'a pas le temps de faire du rap, donc quand on fait du rap, c'est qu'on braque pas de banque. Je pense qu'il faut être clair aussi là-dessus, quoi. Sinon, après, il y a du slam aussi qui est engagé. Moi, je pense qu'il faut différencier l'engagement de la violence. Moi, je pense que si j'ai parfois dans certains de mes textes, j'ai un discours assez violent, mais c'est pas une violence gratuite entre guillemets, c'est une révolte, mais c'est une révolte qui a pour but au final quand même une certaine fraternité, quoi. Ça m'intéresse pas de projeter les gens les uns contre les autres. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on arrive à vivre ensemble, à se côtoyer sans qu'il y ait le moins possible de tension, quoi. Mais pour ça, malheureusement, et ben, y a des murs à briser, il y a des choses à dépasser, et ça nécessite une certaine violence, quoi.
Qu'est-ce que tu joues, quoi, comme instrument de musique pour le slam?
Ah, alors moi ça m'est arrivé de travailler avec un DJ que je salue d'ailleurs, un DJ roubaisien, DJ Boulawan, donc qui fait de la musique électronique. Donc moi j'aime beaucoup la musique électronique. Après j'ai fait aussi beaucoup de choses avec des percussions, parce que dans le slam il y a beaucoup de rythmes, c'est quelque chose qui vient aussi plus ou moins d'Afrique, quoi. Ça réveille aussi des choses qui peuvent faire penser au griot. Donc moi j'aime beaucoup jouer avec des tam-tams et des percussions quand je fais du slam, ou sinon a cappella, c'est-à-dire sans musique du tout. Mais voilà, moi je suis ouvert à même un duo avec une flûte, il y a pas de problème.
Julien, est-ce que vous faites des spectacles ?
Bah oui, je fais pas mal de spectacles. En moyenne, je fais 2-3 lectures par mois. Alors après, des fois, c'est devant 50 personnes, des fois, c'est devant 500. Ça dépend vraiment. Mais ouais, pour moi, c'est important. C'est pas juste écrire mes textes dans mon coin. C'est surtout aller rencontrer les gens. Puis leur lire les textes et puis surtout avoir leur avis après. Moi, ce que j'aime bien, c'est quand voilà, bah, je suis descendu de l'estrade, bah, c'est aller voir la rencontre des gens et me dire alors qu'est-ce que vous en avez pensé ? Et souvent, ça me touche beaucoup ce que me disent les gens, parce que il y en a qui vraiment me disent, bah écoutez, ouais, c'est ce que j'avais envie d'entendre, ou au contraire, des gens qui me disent, bah là, je vois pas très bien où vous voulez en venir. Dans ce cas-là, bon, on discute et voilà, quoi. Je pense que c'est ça aussi qui est bien dans le slam et qui le différencie des autres musiques, c'est que bah on est très proche du public, quoi. Moi, voilà, j'ai pris mon micro, après, bon, bah je vais dans la salle, je discute, voilà. C'est au départ, c'est quand même un endroit où il y a un micro et tout le monde peut prendre la parole, quoi. C'est ce qu'on appelle les slam sessions ou les micros ouverts. C'est des, voilà, il y a un micro et les gens parlent. Alors moi, je lis un texte et puis après, vous pouvez monter, lire un texte aussi. C'est ça aussi. Moi, je viens de là au départ. Hein. J'ai commencé dans les endroits, dans les cafés, dans les théâtres, où tout le monde venait lire un texte, chacun son tour, quoi. Et c'était ça qui m'a beaucoup plu. C'était une parole qui circulait, quoi. C'était pas juste une vedette qui faisait son show, puis après, les gens qui écoutaient comme ça, disaient bravo. Non, ben voilà, si ça t'a touché, peut-être que t'as aussi envie de monter sur scène après moi et de dire ce que t'as à dire aussi. Ça me paraît important.
Comme dans le Ragamuffin des kilomètres de lyrics.
Ouais, bah le ragamuffin, moi c'est quelque chose que pareil, j'ai découvert en même temps que le rap quand j'avais 14 ans. Des groupes comme Ragasonic, c'est des groupes qui m'ont bouleversé. Moi, c'est vraiment des gens qui ont une musicalité puis un discours fort, quoi. Mmh. Donc moi, dans mes textes, bah d'ailleurs tout à l'heure, je ferai sans doute un texte ici en direct
même
pour la radio.
À mon avis.
Ah ben il y a aucun problème, autant que vous voulez. Et voilà quoi. Donc là, on sent effectivement une influence du raga. Ouais, moi j'en ai beaucoup écouté aussi. Quoi.
Bah je vais te lancer sur un texte tout à l'heure.
D'accord. Eh ben ouais.
Vous sentez-vous citoyen du monde?
Oui, certainement. Moi en tout cas, j'habite Roubaix, donc Roubaix c'est un peu une ville qui est ouverte sur le monde, quoi. Moi, quand je marche à Roubaix, je me dis que, ben, waouh, c'est une ville cosmopolite dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on croise des gens venus de tous les horizons différents. Pour moi, Roubaix, c'est la preuve vivante que les gens peuvent vivre ensemble au-delà de leurs différences, au-delà de leur couleur de peau, quoi. Moi, je pense que c'est pour ça vraiment que je suis content d'être à Roubaix. J'habitais Lille avant, mais là, maintenant, le fait d'être le plus souvent possible à Roubaix, c'est quelque chose qui me touche parce que, effectivement, je pense que même dans des petits endroits comme une ville comme Roubaix, on peut retrouver un petit peu le monde en miniature, quoi.
Quelles sont tes origines?
Alors moi, c'est compliqué. J'ai des origines guadeloupéennes. J'ai grandi en France, donc mes racines, elles sont pas vraiment réelles dans le sens où c'est plutôt je me suis projeté en Afrique, je me suis projeté dans les Antilles, mais c'était quelque chose de poétique. C'était plutôt l'art. C'était aussi une manière de me reconnecter avec mes racines parce que mes racines étaient un peu coupées. Après, sinon, comme tu disais justement, moi je pense que comme je viens du Nord, je me sens parfois autant proche d'un fils de mineur polonais que d'un fils de mineur marocain, que d'un africain. Je veux dire, c'est ça aussi. Il y a des moments où il faut connaître ses racines. Moi, je les connais. Je continue à m'éduquer sur l'Afrique, sur les Antilles, etc. Mais je m'ouvre aussi à plein d'autres cultures parce que voilà, j'ai des amis, je fréquente des gens qui viennent de partout. Je pense que c'est important de pas s'arrêter seulement, uniquement, de se crisper sur ses racines, quoi.
Nous venons du monde de la folie et je suis certain qu'il y a un lien entre la folie et la poésie. Es-tu d'accord avec moi?
Ah ouais, c'est une super question. Il y a un lien entre la folie et la poésie. Je pense qu'il y a un lien entre la folie et l'art en général. Il y a un gars que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean Genet qui disait « On n'est jamais artiste sans qu'un grand malheur ne s'en soit mêlé ». C'est-à-dire que on ne se met pas à écrire si on ressent pas une douleur profonde au fond de soi. Et je pense qu'effectivement, je me sens bien parmi vous, donc je peux vous le dire. Moi, ce qui a déclenché vraiment la phase d'écriture, c'est la mort de mon père, en fait. Mon père est mort quand j'avais 20 ans. Ça m'a bouleversé. Je me suis mis à écrire. Pour moi, c'était une nécessité, en fait. Et je pense qu'effectivement, il y a eu beaucoup de gens pour qui l'écriture, c'était pas seulement un loisir, c'était aussi une nécessité, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un moment où soit on écrit, soit on se tape la tête contre les murs. Et moi, ça a été aussi une manière pour moi de me sortir d'une phase où j'étais vraiment très mal. Donc oui, je pense qu'il y a un lien. Je pense que l'écriture, ça peut être une aussi une manière d'exprimer ce qu'on a en soi et qui va au-delà des mots, parce que la poésie, c'est quelque chose qui permet d'exprimer en quelques phrases, quelque chose de tellement profond qui, voilà. Moi, je pense que c'est pour ça que j'aime la poésie, c'est qu'en 3-4 mots, je peux exprimer ce qui me prendrait peut-être des années à essayer d'expliquer de manière peut-être plus en discussion ou en théorie. Voilà, la poésie, ça va à l'essentiel et ça permet d'exprimer parfois des cris de douleur vraiment très très durs et qui pourraient pas passer autrement que par ce biais-là, quoi.
Mais est-ce que tu représentes que ton choc émotionnel t'a fait écrire 300 poèmes?
Bah oui. Alors là, c'est en ce qui me concerne, c'est un paradoxe sur lequel je réfléchis souvent. C'est-à-dire que c'est cette douleur, cette blessure qui m'a fait sans doute exprimer tout ça, effectivement. Alors, est-ce que maintenant, avec le recul, j'aurais sans doute préféré que mon père reste vivant? Ça, c'est sûr. Et jamais écrire de poèmes, j'en sais rien. Enfin, là, c'est une question très, très complexe, très intime. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, en tout cas, la poésie m'a permis de dépasser ce stade-là, quoi. Cette douleur-là, d'aller au-delà et d'exprimer autre chose, quoi. Et pour revenir à la question sur la folie, parmi les écrivains que j'admire beaucoup, il y a effectivement des gens qui ont côtoyé les hôpitaux psychiatriques, notamment, je pense à Antonin Artaud. Je pense aussi à Allen Ginsberg. Allen Ginsberg, c'est un grand poète américain beatnik qui a passé 3-4 ans en hôpital psychiatrique fermé dans des conditions très dures, qui souffrait d'hallucinations, de paranoïa aiguë et qui a accepté ça. Il s'est dit, écoutez, ouais, d'accord, je suis sans doute pas normal dans le sens où j'ai pas envie de me lever matin pour aller faire 40 heures par semaine et voilà, mais moi j'ai une part de personnalité qui est propre et dont j'ai pas à avoir honte. Et effectivement, ces poèmes pour beaucoup étaient des poèmes de fous. N'empêche que maintenant, avec le recul, on se dit c'est parmi les plus beaux poèmes du monde, quoi. Moi, je pense que chacun a cette part aussi de créativité qu'il faut entretenir, quoi. Il y a 6 personnes sur 10 dans leur vie qui écriront au moins un poème. Alors après, est-ce qu'ils en écriront qu'un ou est-ce qu'ils en écriront 1000, peu importe. Mais il faut dire ça. Moi, je pense que ici, parmi vous, il y en a sans doute au moins, ouais, je pense pratiquement tout le monde a déjà écrit, a griffonné un petit mot sur un morceau de papier. Peut-être que c'est pas le plus beau poème du monde, mais peu importe. C'est vous qui l'avez écrit à un moment important de votre vie, qui a exprimé quelque chose d'important. Et c'est ça l'essentiel. Et moi, je pense que voilà, moi, en poésie, il n'y a pas de compétition. C'est ça aussi que j'aime beaucoup. C'est qu'on n'est pas là pour s'opposer qui est le meilleur poète. Moi, je pense que c'est une communauté aussi, la poésie. Et moi, à partir du moment où on écrit un poème, on est un poète, de même que quand on tape dans un ballon, on est un footballeur. Pour moi, peu importe après si on joue en première division ou en cinquième division, ça n'a aucune importance. L'important, c'est qu'on fasse partie d'une même, voilà, une même communauté de gens qui ont besoin de, bah voilà, de d'écrire leur ressenti, quoi.
Poète, nanné, prétend, prétend.
Mm-hmm. Poète, est-ce que tu as écrit un poème sur le président?
Ouais.
Ah. Alors, c'est une question d'actualité au moins, c'est sûr. Oui. Non, j'ai pas écrit de slam vraiment sur le président. Si j'ai posé 12 mesures sur une compilation là entre les deux tours pour qui s'appelait T'auras pas ma voix, Nicolas, comme ça. Comme ça au moins c'est clair. Mais non, j'ai pas écrit de texte sur le président. Par contre, ce qui est sûr, c'est que ce que je me disais ce matin, c'est que je vais continuer à écrire du slam là pendant 5 ans, et je pense que ça aura jamais été aussi nécessaire que pendant les 5 années qui vont arriver, parce qu'effectivement, moi je pense que là on est pas là pour faire de la polémique, hein, mais je pense que voilà, à mon avis, là c'est essentiel qu'il y ait, même s'il y a une majorité de gens qui ont voté pour Nicolas Sarkozy, qu'il y ait aussi des gens qui disent bah voilà, nous on croit à une autre vision du monde, et moi j'ai une vision complètement différente de celle du président de la République actuel, et je compte bien l'exprimer, je compte bien voilà la faire partager aussi à des gens. Je pense que c'est ça, il faut à mon avis s'attacher à un truc essentiel, c'est la liberté d'expression. Si elle est mise en cause, ben il faut pas hésiter non plus à la défendre. Je pense que c'est essentiel. Voilà, moi je vais pas attaquer ceux qui ont voté pour Nicolas Sarkozy, par contre il faut pas non plus qu'ils viennent m'interdire de m'exprimer, interdire ceux qui ne pensent pas comme lui de prendre position dans l'espace public. Ça c'est important.
Petit peu chanson et vous.
Réalise en toi le feu qui t'active pour nous parler de pulsions positives. Ta vision des choses n'en est pas moins sélective, mais elle n'en reste pas moins positive. Fatal, brutal, la cause est primordiale. Que peux-tu faire contre ce vocal? Infernal, mon achouche, à mon rage banal et ma dégaine. Qu'à cela ne tienne, je rengaine et enchaîne. Ça fait sauf, je deviens bien faire mon si telle est ainsi ton chemin. Prends en main ton stylo et compare les vues du pile et face que tu fais dans ton histoire et repars avec un seul espoir enfin de devenir enfin écrivain.
Ouais,
bravo.
Ouais, j'applaudis. Bon, bah alors je vais en faire aussi. Hein. Et n'hésitez pas, hein, s'il y en a d'autres qu'on était, allez-y. Ça se transforme en slam session.
Est-ce que ça me date de la flûte enchantée?
Ah, alors la flûte enchantée de Mozart ou celle que tu joues toi?
Moi.
Ah, moi je t'ai jamais entendu jouer.
Je vais jouer un petit morceau maintenant.
Bah écoute, vas-y. Attends, vas-y, joue et moi je vais faire un truc au-dessus, d'accord? Vas-y, joue. On va essayer, hein. Souvenir d'avant l'aurore, quand je n'étais encore qu'une pluie de mystère, un frisson sur la terre, un fragment d'éléments, un amas de sentiments, pas vraiment défini, une parcelle d'infini, le tambour d'avant ma vie, celui qui battait au rythme d'un cœur inconnu. J'étais nu dans la tiédeur de la nuit, je nageais sur un nuage de suie, j'essayais de me frayer un passage vers le jour, vers le front du tambour, mais le compte à rebours m'a poussé jusqu'au bord d'un soleil qui brûlait mes oreilles et qui m'éblouissait comme un joyau au vermeil. À présent, j'entends le tambour qui rugit sur la terre, le balafon de feu qui bat sous mes paupières, la lueur de l'aurore, la chaleur de l'effort, le fouet qui dévore la chaleur carnivore, le coton emballé, le rhum étranglé, les hommes empilés au fond d'une cale pour une escale, au jardin des supplices, un grand champ de cicatrices. Les traces de mon passé se finissent dans une flaque flashback, le vent claque sur ma nuque, le souvenir de l'Afrique qui revient en syncope sous mon crâne, comme une brûlure de clope, comme le jus de la canne dans la bouche du cyclone. Voilà.
Bravo.
Et merci à toi, Brahim. Ça, c'était un duo inédit, ça.
Donc, et qu'est-ce que ça fait ça avec la chanson et la flûte?
Eh ben, ça fait pas mal, hein. C'est les auditeurs qui vont nous dire ça vendredi, mais moi, je pense que c'est pas mal du tout. Hein.
Pour nous contacter.
Alors, si vous avez internet, vous pouvez nous envoyer un email, on vous encourage. Voici l'adresse, les entonnoirs, lesentonnoirs, tout attaché, @hotmail.fr.
Le téléphone, 03 28 33 48 34. Veuillez nous laisser un message s'il vous plaît, si vous pouvez.
Qu'est-ce que vous pensez du nationalisme ?
Franchement, je dois vous dire, les gars, c'est les questions les plus intéressantes qu'on m'a posées pour l'instant à la radio. C'est vrai, hein, je dis pas ça du mal à ceux qui m'ont invité aux émissions précédentes, mais là, j'ai des questions, waouh, j'aurais dû les préparer, parce que qu'est-ce que je pense du nationalisme ? C'est ambigu, parce que je pense qu'il y a un moment où le nationalisme, c'était quelque chose de positif. Par exemple, je pense à la Révolution française en 89, quand les gens brandissaient le drapeau français, ça voulait dire quelque chose, ça voulait dire qu'ils croyaient en un idéal de liberté, d'égalité, de fraternité, c'était vraiment porteur de quelque chose de fort. Donc moi, ce drapeau français, je sais pas que je le revendique, mais je pense qu'à un moment, il a signifié quelque chose de grand. Maintenant, le nationalisme, il se replie sur lui-même. Si nationaliste, c'est dire, bah voilà, nous sommes le centre du monde, c'est à nous qu'appartient la mission de civiliser les autres. Là, ça m'intéresse plus. Donc effectivement, le drapeau français, le nationalisme, ça dépend vraiment des circonstances. Je pense qu'on peut avoir un nationalisme positif si on est ouvert aux autres nations, mais si c'est un nationalisme fermé, crispé, un peu frileux, dans ce cas-là, ça devient de la xénophobie et c'est une catastrophe, quoi, effectivement.
Qu'attendez-vous du nouveau président de la République concernant la diversité de la nation française ?
Ah bah alors, si je disais que j'en attendais pas grand-chose, ce serait un peu négatif. Disons que, voilà, moi j'étais très déçu dans la manière dont il a mené sa campagne. Je trouvais que jouer sur les peurs des gens, jouer sur les divisions, c'était une catastrophe. Après, est-ce que c'était juste un argument électoraliste pour être élu et que maintenant il va gouverner en prenant en compte les différences, j'espère. Après, moi je pense que c'est quand même très dangereux comme ça de jouer sur les divisions et ça va laisser des traces. Et malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, hier, ont eu l'impression qu'on votait contre eux. Et ça, c'est la première fois, je pense, que ça arrive dans l'histoire de la Ve République, c'est que vraiment des gens se sont sentis exclus du résultat et humiliés par les résultats. Et moi, c'était un peu mon cas hier, parce que des propos à l'emporte-pièce, comme racaille, comme Karcher, comme les moutons dans la baignoire, etc., c'est des choses qui devraient pas être dites dans l'espace public démocratique, parce que c'est des choses qui sèment la zizanie, qui sèment la discorde, et c'est bien beau après de jouer le rassembleur. Moi, ce que j'espère, en tout cas, voilà, c'est que les gens seront vigilants et qu'on laissera pas passer des atteintes graves à la liberté d'expression et à l'unité de la nation. Parce qu'effectivement, oui, on est tous français. Français, c'est pas seulement une question de principe, c'est pas seulement parce qu'on dit que tu es français que tu l'es, c'est parce que dans les faits, tu l'es, dans les faits, tu as l'égalité d'accès au logement, l'égalité d'accès aux loisirs, etc. S'il y a des gens qu'on laisse sur le bord du chemin, alors on n'est plus vraiment en République et j'espère qu'on laissera le moins possible de gens sur le bord du chemin. Après, voilà, dire que je crois en la présidence de Nicolas Sarkozy, ce serait pas vrai. Après, voilà, j'espère juste qu'il va limiter les dégâts et qu'il va surtout écouter ceux qui n'ont pas voté pour lui parce que, mine de rien, ça représente quand même pas loin de la moitié de la population, quoi.
Allez, du lyrics.
Du lyrics ? Encore ? Vas-y,
alors,
à toi.
Alors qu'il fait jour ici et nuit là-bas, que ton esprit est déjà bien au-delà de toute limite et de toute frontière. Tes pensées errent, elles errent dans les airs, sillonnent de l'équateur à l'hémisphère, frissonnent la moiteur de l'atmosphère, de tous les temps, de tous les cieux. Je m'évade et m'inspire en eux.
Waouh, c'est du slam, ça.
Bravo.
Ouais, il faut applaudir, mais bon, j'allais enchaîner, mais d'abord j'applaudis, ok. Mes oreilles sont collées à la terre des ancêtres. La pulsation syncopée pénètre au creux de mon être. Un vibrato de poussière dans mes tympans fissurés. Une litanie de lumière, un gospel fracturé. Un frisson de napalm sous mes dents, un chaos sans précédent. Mes mains tremblent dans une secousse sismique. Je reçois les signaux émis par les racines telluriques. Le courant vient d'Afrique et se propage comme un nuage chargé d'ondes électriques. La négritude n'est pas une attitude, c'est comme un souffle chaud qui vole en altitude, qui prend de l'amplitude, bouleverse tes habitudes, renverse tes servitudes et touche les multitudes sous toutes les latitudes. Mes gencives saignent en mémoire de la viande, la chair meurtrie de mon peuple offert en offrande au grand Moloch, avide de sang et assoiffé de sueur. Le juge a coiffé sa perruque de malheur d'un coup de marteau. Vengeur, il a condamné mon peuple à des siècles de douleur et d'errance en partance pour l'oubli, dans des voiliers aux voiles blanchies, gonflés d'air vicié qui claquent au vent comme le fouet sur le dos des esclaves, hommes braves arrachés aux mangroves et traités comme des larves. Le cargo des gorges d'eau qui craquent, des centaines de corps harassés, entassés, tassés comme du bétail dans les entrailles du Léviathan de bois. Souviens-toi, Renoir, de tes refrains enchaînés, alignés par rangées bancales, au fond d'une cale, avec la mort comme unique escale, la peur qui colle au corps, tapis comme un animal dans les entrailles du monstre naval. Voilà, c'est mon histoire dans l'odyssée du peuple noir qui lentement, lentement s'efface de ta mémoire. Car un jour, j'ai compris que nègre était un concept trop vaste pour un seul peuple, que ce n'était pas qu'une question de couleur de peau, et que partout, l'homme est abaissé, humilié, dénié dans ses droits fondamentaux, et qu'il résiste malgré tout et qui luttent par tous les moyens nécessaires. Alors il y a des nègres, et beaucoup d'êtres humains sur cette planète sont des nègres qui s'ignorent. Résistant à toutes les injustices, tu es nègre, insoumis même sous la torture, tu es nègre, semeur d'espérance au cœur des hommes, tu es nègre, fils des limbes, des favelas et des bidonvilles postmodernes, tu es nègre, ouvrier au corps tordu par la machine de fer, tu es nègre, chômeur qu'on pressure comme un chiffon usé, tu es nègre, clodo abandonné au fond d'un carton silencieux, tu es nègre, sans papier, assoiffé d'azur et à qui on ne donne rien, tu es nègre, bot people noyé dans l'océan amer, tu es nègre, prisonnier dans une geôle de ténèbres, tu es nègre, bagnard au bord du vide, tu es nègre, pauvre fou, gavé de pilules dans un cimetière psychiatrique, tu es nègre, vieillard presque mort, englué dans l'oubli, tu es nègre, junkie au bras criblé d'aiguilles, tu es nègre, ange déchu, les yeux dynamités d'alcool, tu es nègre, enfant martyr rendu sourd par les coups, tu es nègre, putain qui arpente les trottoirs sans fin, tu es nègre, femme battue, tu es nègre, femme violée, tu es nègre, toutes les femmes sont nègres parce qu'être une femme c'est se battre de son premier cri à son dernier souffle, nègre, 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 j'ai vu l'armée des ombres et le soleil enfui, leurs visages absents étoilés dans la cire, j'ai entendu des larmes au travers de leurs rires, tous les nègres du monde éclaboussaient la nuit.
Waouh.
Bravo.
Merci. Merci beaucoup.
Alors on va enchaîner.
Cette émission a été réalisée avec le soutien du Fonds de participation des habitants de Roubaix, du Fonds social européen, du prix Balthazar de l'association Archipel et de la Fondation Solidarcité.
Est-ce que monter sur scène pour toi c'est un plaisir ou c'est une corvée ou c'est une rude épreuve ou...
C'est une rude épreuve, c'est un plaisir, c'est jamais une corvée, non, sinon je changerais d'activité, je pense que c'est clair. C'est une rude épreuve, ouais, parce que j'ai beau avoir fait pas mal de lectures, là, j'ai calculé une fois, j'en avais fait une 100, 150, je sais plus exactement, mais j'ai fait beaucoup de lectures, mais j'ai toujours de l'appréhension et ça n'a rien à voir avec le nombre de gens dans le public en fait, c'est ça que j'ai remarqué. Là par exemple, j'ai autant d'appréhension à lire devant vous que sans doute le 10 mai au Festival de l'Amitié. C'est un plaisir immense, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je suis 10 minutes avant de monter sur scène, j'ai vraiment le trac. Après, ce qui est génial dans le slam, c'est comme moi, je le fais souvent sans musique, sans rien, donc je suis tout seul face au public, et là, c'est un échange, quoi. Plus le public écoute, mieux je me sens, et je sens vraiment que c'est un dialogue, quoi. C'est-à-dire, les gens, parfois, écoutent, puis les gens interviennent, quoi, c'est génial. Par exemple, dans ce texte nègre, il y a des gens qui tapent, qui applaudissent, qui font ouais, ouais, et tout. Là, je me dis, ouais, je suis porté, quoi. Je veux dire, c'est au-delà de moi, quoi. Là, c'est vraiment un dialogue, un échange, et c'est fort, quoi. Donc, non, à chaque fois, c'est une expérience, quoi. Vraiment unique, très forte. Et pour rien au monde, je changerais ça parce que c'est, waouh, parfois, je suis tellement proche aussi. C'est-à-dire qu'il y a le micro et je suis à un mètre des gens. Donc, je vois leur réaction tout de suite, quoi. Et c'est, waouh, c'est quelque chose d'unique, ouais. Mais c'est des moments, moi, je suis vraiment heureux d'avoir la chance de pouvoir vivre ces expériences-là et d'échanger comme ça avec les gens au quotidien, c'est génial.
Quel point commun tu pourrais relater entre Kwame Kumba, Steve Biko, Sheranta Diop, qui pourrais citer encore? Il y en a tellement.
Ah, il y en a plein, il y a Lumumba, il y a Sankara, il y en a voilà des gens.
Merci.
Ben c'est des gens qui ont c'est marrant d'ailleurs,
Léopold Senghor.
Et Léopold Senghor, bah regarde, dans le nègre, le texte que j'ai fait là, c'est un texte qui dure 10 minutes, donc j'ai fait un extrait et dedans il y a quelque chose qui fait ça, c'est fait souviens-toi Renoir des vieux chiens de guerre qui sont battus pour toi, qui ont lutté pour tes droits, pour te laver de la boue. Souviens-toi de frère Malcolm, la fierté toujours debout. Souviens-toi de Marcus Garvey, de la prophétie, de Bob Marley, de Peter Tosh aussi. Souviens-toi de Martin Luther King et de Mohamed Ali, d'Angela Davis, de Frantz Fanon, de Léopold Sédar Senghor, d'Aimé Césaire, de Toussaint Louverture, de Sheranta Diop et aussi de la Dior. Enfin, rappelle-toi de Louise Michel. Oui, Louise Michel était nègre. Jean Genet aussi était nègre d'ailleurs. Antonin Artaud aussi était nègre d'ailleurs, car un jour j'ai compris que nègre était un concept trop vaste pour un seul peuple, que ce n'était pas qu'une question de couleur de peau. Voilà, donc ça dit ça dans mon texte. Et le point commun entre tous ces gens-là, c'est des gens qui ont eu le rêve que l'Afrique serait debout un jour. Et le rêve que l'Afrique sortirait de cet horizon de nuit dans lequel il est plongé, parce que l'Afrique c'est un continent extrêmement riche, riche de sa richesse, riche de ses matières premières, et je crois que l'Afrique va se relever. Moi je pense que l'Afrique au contraire là, c'est peut-être même l'avenir du monde qui se joue en Afrique. Je pense que si on tourne le dos en Afrique, on tourne peut-être le dos aussi à notre avenir. L'Afrique est à l'origine du monde, ça on le sait, et je pense aussi que voilà, l'Afrique c'est pas seulement la misère, c'est pas seulement la victimisation, c'est bien autre chose. C'est aussi des peuples jeunes, des peuples qui ne demandent qu'à relever la tête et surtout qu'on les laisse relever la tête. Parce que dire qu'actuellement l'Afrique, c'est qu'un lot de massacres, etc., c'est vrai. Mais il faut voir aussi que l'Afrique n'est pas libre. Elle a beau être sortie de la colonisation, il y a ce néocolonialisme qui met encore la tête dans l'eau. Et de dire que les Africains viennent ici, c'est finalement tellement logique. Si là-bas, la misère qui est concrète, qui est affreuse là-bas, est aussi en partie créée par justement des groupes financiers qui veulent que l'Afrique soit toujours cette terre qu'on peut exploiter infiniment. C'est-à-dire que moi, je parlais à des Sénégalais dont la famille sont des pêcheurs traditionnels. Bon, ils pêchent normalement à la pirogue. C'est-à-dire que bon, avec une pirogue, on peut pas ramener des tonnes de poissons. Eh bien, il y a plus d'eau. Il y a plus d'eau parce que malheureusement, les eaux territoriales sénégalaises ont été vendues. Il y a pas d'autre terme, à des grands groupes industriels qui font de la pêche en gros dans d'énormes paquebots. Donc eux-mêmes n'ont même plus de quoi nourrir leur famille avec leurs propres matières premières. Comment s'étonner qu'ils arrivent après, au risque parfois de leur vie, dans des pirogues de fortune en Europe? C'est la seule solution. Ils sont affamés. Et moi, je pense que la vraie solution, c'est qu'effectivement, les gens disent en France, qu'on soit cohérent, qu'on dise « Ok, peut-être qu'on veut plus de cette immigration de la misère, mais dans ce cas-là, qu'on soit logique, qu'on dise « Ok, qu'on arrête d'étrangler l'Afrique, qu'on laisse l'Afrique jouir de ses biens, de ses richesses. » Voilà, c'est la seule solution. Moi, je crois vraiment à l'Afrique. Je suis pas du tout un afro-pessimiste, au contraire. Moi, je pense que l'Afrique, c'est vraiment le continent de l'avenir. Et il y en a d'autres, hein, l'Amérique du Sud aussi, etc. Je sens qu'il y a une vie qui est très forte et je pense que rien ne pourra l'arrêter. Et je suis très, très confiant. Malgré les horreurs, je reste confiant.
Que pensez-vous du droit de vote des immigrés aux élections locales, éventuellement ?
Nationales aussi.
National, ça ce serait courageux. Celui qui aura le courage de proposer ça, il se fera pas élire, je pense. Hein. Mais bon.
L'LCR le propose. Je suis la LCR le propose.
C'est courageux. En tout cas, pour les élections locales, je pense que c'est normal. Des gens qui vivent dans une ville depuis 5, 10, 15, 20 ans, qui participent à la vie de la cité, qui payent des impôts locaux d'ailleurs, hein, faut pas se leurrer non plus. Je vois pas pourquoi ils auraient pas le droit de s'exprimer. Au contraire, moi je pense que c'est prendre le pari de faire jouer toutes les richesses d'une municipalité, quoi. Les gens participent, qui soient étrangers ou français, les gens participent à la vie associative, les gens se mobilisent. Voilà, donc moi je pense que c'est la moindre des choses, c'est de leur accorder le droit de vote, effectivement. Mais c'est une mesure qui devait être prise depuis tellement longtemps en France, mais malheureusement, voilà, les gens n'osent pas, n'ont pas le courage politique de la prendre, c'est dommage.
Ministre président, moi pense l'année 2007-2008, président.
Ah, qu'on ait un poète président un jour. Il y en a eu, hein. Il y a eu au Sénégal Léopold Sédar Senghor qui a été président et poète, qui était poète avant d'être président. Je sais pas s'il faut un poète président, je pense en tout cas que faudrait peut-être je dirais pas un peu de poésie, mais en tout cas faut peut-être penser aussi à justement la liberté d'expression, parce que c'est celle-là qui nous permet d'écrire et de continuer à nous exprimer. Donc moi le seule chose sur lequel je ferais vraiment intransigeant, c'est ça, quoi. Il faut que les gens puissent continuer librement à s'exprimer, et malheureusement c'est pas... J'ai quelques appréhensions. Voilà, je dirais pas que ça va se passer comme ça, mais je sais que il faut être vraiment vigilant, parce que le jour où on nous dira, parce qu'il y a mille et manières de censurer les gens, hein. La censure la plus évidente, c'est celle de la dictature de base où, on dit ferme ta gueule, on te claque la tête et on te met en prison. Il y a une autre censure qui est plus vicieuse, c'est, il y a des associations qui se battent, et on leur coupe leurs subventions, des choses comme ça. On leur empêche finalement de continuer à porter la parole des gens, et c'est là-dessus qu'il faut être vigilant, je pense. Je crains que malheureusement, là, on l'a vu en 2005, hein, les révoltes populaires en banlieue, on a promis des sous aux associations, ils ne sont pas arrivés, et si on laisse toute une partie de la population dans le désœuvrement le plus total, c'est le meilleur moyen de les inciter aussi à avoir des débordements violents. Moi je pense qu'on n'est pas violent par nature, je crois pas à la génétique, moi, à ce niveau là je pense qu'on est violent parce que malheureusement on nous y accule, et mais il faudrait prendre conscience de ça. Et voilà, donc cette censure là c'est aussi une censure économique, faut se méfier. Moi je pense que la France c'est un pays génial et qui sera sauvé par son tissu associatif. Il y a plein d'associations, des gens qui travaillent ensemble, et ça, c'est quelque chose, c'est un patrimoine qu'il faut défendre, je pense, vraiment.
Monde.
Le monde ?
Oui.
L'univers se roule en boule et roule en portant les foules vers les portes de l'enfer.
Par rapport au monde qui nous entoure ?
Oui.
Bah oui, c'est vrai qu'on n'est pas qu'un tout petit pays de 60 millions, c'est vrai qu'on est 6 milliards sur cette planète. C'est des questions formidables que vous posez, mais c'est vrai que je me dis, qu'est-ce que je peux, moi, en tant que poète ? Tout ce que je peux faire, en tout cas, c'est essayer de parler, de dialoguer. Moi, je pense que c'est ça l'essentiel. C'est dialoguer, surtout dialoguer de manière égalitaire. C'est pas se dire, voilà, parce que je suis issu d'une république française, je suis supérieur à un Africain, ou je suis supérieur à un Asiatique, ou je suis supérieur à un Maghrébin. Moi, je pense que voilà, il faut arrêter les complexes de supériorité. Quand on dialogue avec les gens, il faut dialoguer de manière équitable et de manière humble. Voilà, moi, je pense qu'il y a des grandes civilisations qui sont nées en dehors de l'Europe. L'Afrique est une grande civilisation, l'Asie est une grande civilisation, l'Amérique latine est une grande civilisation. Et je pense que voilà, le monde, le regard qu'on porte sur le monde, ça doit être un regard digne et égalitaire. C'est ça qui est important.
Mais quoi ?
Tu penses quoi de l'Amérique ?
Ouais. À l'Amérique, c'est pareil. L'Amérique, c'est, je dirais que c'est le poison et l'antidote. Il y a des choses formidables qui sont nées en Amérique. Le blues, le rock, le jazz, qui a été apporté en grande partie par les esclaves noirs américains. Et puis, voilà, des poètes comme Allen Ginsberg, les poètes beatniks. Beaucoup de musique que j'écoute vient d'Amérique. Et en même temps, voilà, il y a aussi l'aspect inverse, c'est-à-dire une nation qui croit qu'elle peut dominer le monde et qui se croit investie d'une mission, qui est les gendarmes du monde. Moi, je pense que c'est ça. Dès qu'on est trop sûr de soi, sûr de sa supériorité, en général, on se plante et on fait du mal autour de soi. Mais l'Amérique, c'est pareil, je n'irais pas dire que tous les Américains sont des gens dangereux. Je pense qu'il y a c'est tout. Au cœur de l'Amérique, il y a les deux, il y a le poison et il y a l'antidote.
Londres.
J'y suis allé quand j'étais gamin. C'est une ville qui bouge très bien au niveau du slam. Et je dois y retourner d'ailleurs normalement en octobre pour faire un peu de slam là-bas parce qu'il y a la poésie, elle est assez dynamique. La scène raga, la scène électro aussi d'ailleurs. C'est une ville qui bouge du tonnerre. Ouais, non, mais c'est ça, il faut penser, t'as raison, il faut penser en dehors de notre petite nation.
Aussi. M'a fait beaucoup.
Merci à vous, Manu.
Quand tu parlais des États-Unis, tu disais qu'il y avait des choses géniales à prendre, dont le blues, le jazz, tout ça. Mais est-ce que t'es conscient que ce que tu prends là, c'est le fruit de la souffrance de certaines civilisations, de certaines sociétés, de certaines ethnies ?
Oui, j'en suis conscient, mais c'est un peu comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que de cette souffrance-là est né un champ d'espoir. C'est-à-dire que moi, je pense que une souffrance, ça doit porter une révolte et un espoir. Pour moi, c'est ça. Et le blues et le jazz, c'est ça. C'est une souffrance inouïe. Effectivement, le blues est né dans les champs de coton. Des gens qui ont forcé à ramasser toute la journée des tonnes de coton à coups de fouet. Des gens qui ont maltraité, des gens qui ont batté, des gens qui ont violé. Oui, mais de cette souffrance-là qui est inouïe est né un chant de révolte et un chant d'espoir. Et ce chant d'espoir-là, il est universel. C'est-à-dire qu'il dépasse la condition des Noirs pour toucher la condition de tous ceux qui ressentent une souffrance. C'est-à-dire que moi, quand j'entends du blues, j'entends le monde qui pleure, en fait. Et le monde aussi qui espère. C'est ça. Dans mes textes, il y a des textes que j'ai lus qui sont extrêmement violents, mais qui portent toujours cette espérance. C'est-à-dire que moi, je refuse de me cogner la tête contre les murs ou de me tirer une balle dans le pied. Ce que je veux, c'est qu'on puisse créer une fraternité de gens qui luttent, quoi. Voilà. Parce que c'est dans la lutte qu'on se libère. Il y a que ça. Et moi, c'est la libération qui m'intéresse aussi, la libération au quotidien et les uns les autres. Elle se fera pas par un homme providentiel qu'on porte à l'Élysée. La libération, c'est pas ça. La libération, c'est dans nos rapports au quotidien, les uns les autres, quoi. La
manière dont on se regarde. Ça ne sera pas avec celui-là non plus.
Bah oui, mais ce sera. Enfin voilà, je pense pas qu'un homme puisse changer le destin du monde, non. Ou alors en négatif, c'est ça le problème.
Que pensez-vous de la journée du 10 mai concernant la commémoration de l'abolition de l'esclavage ?
Le 10 mai, c'est hyper important. Et je suis triste parce que cette année, et là, j'espère qu'il y a des gens de la municipalité de Roubaix qui m'écoutent, le 10 mai 2008, il faut absolument qu'il se passe quelque chose à Roubaix autour de l'esclavage. C'est une date importante, mais c'est à nous de la faire vivre. C'est-à-dire, c'est pas, si on se contente de dire, il y a le 10 mai et qu'il se passe rien 2-3 ans de suite, la date va disparaître. Et c'est hyper important parce que c'est à la fois revenir sur un passé, mais c'est aussi construire des perspectives d'avenir. C'est pas seulement, elle concerne pas seulement les Noirs. Elle concerne les Noirs, évidemment, les Antillais, les Africains, mais c'est une date qui concerne tout le monde. C'est notre histoire commune. Il faut la construire ensemble. Et cette date-là, moi, j'espère, cette année à Lille, il ne se passera pas grand-chose, à Roubaix non plus. J'espère que l'an prochain, vraiment, les associations, les institutions vont prendre conscience de l'importance de cette date et qu'il se passera des choses. Et moi, en tout cas, là, cette année, je fais une lecture pour l'ouverture du Festival de l'Amitié. Je vais lire des textes uniquement sur le thème de l'esclavage et de la mémoire, même si ce n'est pas le cadre de la fête de l'Amitié, ce n'est pas le 10 mai, mais c'est une date importante. Et donc, moi, je vais prendre le parti de lire comme si c'était une commémoration de l'esclavage, parce que pour moi, c'est un jour extrêmement important. Et voilà, c'est pour construire notre histoire commune. Moi, la souffrance d'un homme et d'une femme en fond de cale, c'est ma souffrance. Moi, la souffrance d'un homme qu'on fusille en 44 en Pologne, c'est ma souffrance. Peu importe l'appartenance, peu importe les étiquettes, je veux dire, c'est la souffrance de l'humanité. L'esclavage, c'est une cicatrice sur la joue de l'humanité. La Shoah, c'est une cicatrice sur la joue de l'humanité. La colonisation, c'est notre cicatrice sur la joue de l'humanité. Et là, ça nous dépasse. Ça dépasse la couleur de peau, ça dépasse notre importance. Il faut qu'on arrive à créer une histoire en commun et un vécu en commun. Et donc un avenir en commun après, quoi, un vivre ensemble, c'est super important.
Du lyrics. Freedom, freedom. Freedom, freedom. Freedom.
the peace, for the love and freedom, freedom, freedom. For the peace, for the love and freedom, free, free you be and freedom, freedom.
Ça barre pour ma mémoire de verpillé. Ça barre pour mon étoile dans son filet. Ça barre, lion de sang farouche, balai noir des mouches autour du soleil. Ça barre, bouteille abandonnée dans les ruelles, malade, offrande de pommade aux nomades de la nuit. Ça barre, muscle tendu du bois d'ébène qui s'abandonne à la lune. Ça barre, écorce qu'on force pour atteindre la sève. Aurore avortée pour retenir mon rêve. Ça barre, note bleue tatouée sur la surface de l'aube. Jazz, en phase, avec mes mots et mes phrases. Et ma langue papillon négrillon qui s'extrait de sa gangue d'argile. Ma mémoire fragile qui se mesure au mur et réduit au silence les forteresses qui se dressent comme des miradors quand ma mémoire s'endort.
Et...
Merci. C'est pas déjà fini, j'espère. Il reste des questions.
Moi, j'ai une question impertinente à te poser.
Impertinente, ah, c'est le préféré.
À quoi penses-tu la nuit ? À la politique, aux médias, au slam ou à ta femme ?
Waouh ! Oh, on dirait une question à l'ardisson, ça c'est bien ça. Alors, bah, écoute, c'est marrant, c'est une nuit parce que depuis une semaine, je pense beaucoup à la politique quand je me réveille. En croyant faire des cauchemars jusqu'à hier, je me suis rendu compte, non, c'était la réalité. Donc voilà, donc je pense beaucoup à ma femme que j'adore et à qui je fais un gros bisou à travers les ondes hertziennes, Georgia, voilà, qui a un très beau nom en plus, Georgia, comme une chanson de Ray Charles.
Georgia.
Voilà.
Georgia. Maman.
Ray Charles.
Ouais, Ray Charles. Non, ben la nuit, je dors bien en général, sauf depuis là, 15 jours à cause de, à mon avis, des présidentielles. Et non, ben la nuit, ça m'arrive malgré tout de me réveiller le matin avec des phrases comme ça, des vers, alors je les note, quoi. Et il y avait une anecdote, moi je le fais pas, hein, mais Victor Hugo par exemple, il avait toujours un carnet à côté de lui et il se réveillait au beau milieu de la nuit. Alors lui c'est un génie, hein, Victor Hugo, il écrivait comme ça une centaine de phrases parfois la nuit, des alexandrins qu'il avait dans la tête, dont il avait rêvé, puis il se rendormait, puis il recommençait. Bon voilà, c'est un gars formidable, Victor Hugo, et c'est un type, sa dernière phrase sur son lit de mort, ça a été un alexandrin en fait. Il a dit, c'est ici le combat du jour et de la nuit. Alors imaginez le gars, sa dernière phrase avant de mourir, c'est un alexandrin. C'est vrai, il y a des gens comme ça, c'est des, tu sais pas trop sur quelle planète ils vivent, c'est des génies, quoi, on va dire. Moi, j'en suis loin d'être à ce niveau-là. Moi, je suis un humble artisan de la poésie, mais enfin, voilà, c'est déjà bien.
Et vous rêvez ?
Ah, je rêve, ouais, je rêve beaucoup, moi. Et alors, ce qui est marrant, c'est que je rêve en noir et blanc, moi. Et vous ?
Non, pas nous.
D'accord. pas toi. Mais je rêve souvent noir et blanc. Et alors, je rêve avec un. Comme dans un film, souvent avec le. Vous savez, la bande noire, là, des films en cinémascope. Je rêve en cinémascope noir et blanc.
S'il vous plaît.
C'est
bon. En 16-9e.
En 16-9e, souvent, ouais. En tout cas, les rêves dont je me rappelle, souvent, c'est ça, quoi.
Qu'est-ce que pensez-vous de votre pièce de slam ?
Alors, ma pièce. Mon spectacle, tu veux dire ?
Ouais.
Alors mon spectacle de slam, ben je l'aime bien forcément, mais je continue à le travailler parce que là j'ai, c'est vrai que ouais, on peut parler de l'actualité aussi. Là j'ai donc un bouquin qui est paru il y a un mois et demi qui s'appelle Le mur s'efface. Et donc là il y a deux spectacles à partir de ce bouquin. Il y a un duo avec une danseuse contemporaine qui s'appelle Marthe Bolda, qui vient d'Afrique mais qui mélange la danse africaine et la danse contemporaine. Donc on est à deux sur scène. Donc moi je fais du slam, elle fait de la danse et on essaye de dialoguer comme ça, quoi. Donc elle essaye de faire parler son corps et moi j'essaie de faire danser mes mots un peu, c'est un peu ça le principe, quoi. Et puis il y a un duo avec DJ Boulawan, donc qui est un grand DJ de Roubaix, mais dont la qui est un mec formidable et puis dont la célébrité à mon avis va s'étendre bien au-delà de Roubaix. Et donc c'est un duo, donc il est au platine et puis moi je fais du slam dessus. Et comme Boulawan c'est quelqu'un vraiment qui a une sensibilité incroyable, c'est-à-dire que en gros on travaille comme ça, il me dit bon quelle couleur ton texte. Alors, moi je dis ouais bleu marine par exemple, et puis hop il trouve des disques et puis et ça colle à chaque fois, quoi. Je sais pas si c'est...
Le jeu des couleurs, c'est un truc d'ingénieur du son.
Ouais, bah c'est peut-être ça. Alors voilà, à mon avis, c'est ça. C'est, lui, ça lui parle plus que les mots, les couleurs. Il me dit souvent une atmosphère, une couleur, et puis à partir de là, il trouve un morceau et ça marche à chaque fois, quoi. Et
les ingénieurs du son trouvent ça rose, vert.
Ouais. Non, c'est marrant. Ils ont des images comme ça mentales qui sont chouettes, quoi. Mm. Après tout, c'est aussi une manière de dialoguer. Comme moi, je connais rien à la musique et que lui, bah voilà, il est pas forcément non plus trop féru de poésie. Donc on communique par un langage commun qui est la couleur, quoi. Et ça marche à chaque fois. C'est génial.
Spectacle 2008. Et vous
Ah, alors, ce que je voulais faire en 2008, eh ben, oui. Alors là, déjà en 2007, en juin, je pars à Charleville-Mézières. C'est la ville de Rimbaud parce qu'il y a une résidence dans la maison de Rimbaud. Donc, je vais écrire dans la chambre d'Arthur Rimbaud des poèmes sur, c'est génial. Moi, je suis super content. Alors, en fin d'année 2007, donc, je vais être au Sénégal aussi. Je pars 3 semaines en Afrique. Je suis super content pour faire des ateliers d'écriture dans un quartier populaire de Dakar parce que je fais beaucoup d'ateliers d'écriture aussi, hein. Donc, j'en ai fait beaucoup en prison, j'en ai fait beaucoup dans les MJC, beaucoup dans les collèges. Pour moi, c'est important aussi de transmettre ma passion à d'autres gens, quoi. Et alors, en 2008, il y a un projet qui va se passer à Fâche-Thumesnil, donc pas très loin d'ici.
Lille.
À côté de Lille, ouais, qui est un projet d'un spectacle qui va s'appeler Georgia, donc il n'y a pas de secret, parce que c'est la femme de ma vie, donc j'ai écrit un recueil sur, au-delà de son nom, son nom me fait voyager, donc voilà, j'ai écrit des poèmes là-dessus, puis ça va être mis en spectacle en 2008. Donc voilà, je ne devrais pas m'ennuyer si tout va bien.
Moi, je voudrais savoir quel est ton artiste, auteur, compositeur, interprète préféré. Faut que tu en choisisses un seul.
Alors, en chanson française et en chanson internationale, tout confondu?
Tout, dans ton cœur. Qu'est-ce qui parle?
C'est Bob Marley, évidemment.
Marley.
C'est Bob Marley, ouais, toujours. Parce que Bob Marley, il réunit tout. Il réunit tout. Il réunit à la fois la chanson engagée, la chanson de combat, la chanson d'amour, l'espérance mystique aussi. C'est quelqu'un qui porte un espoir qui le dépasse. Moi, quand j'entends Marley, j'ai l'impression qu'on est au-delà de la musique, on est au-delà de l'art, on est dans... Marley, c'est quelqu'un qui rassemble les gens. Moi, j'ai entendu des choses incroyables dans la rue, hein, parce que bon, ça se voit pas à la radio, mais j'ai des longues dreadlocks et j'ai un petit air de Marley, effectivement. Et dans la rue, les gens m'appellent souvent Bob Marley, tu vois. Alors moi, je suis content parce que c'est quelqu'un que j'admire énormément. Et moi, j'ai entendu des choses complètement hallucinantes. Des gens, je me rappelle un légionnaire complètement bourré, enfin l'ancien légionnaire qui me dit moi, j'aime pas les noirs, j'adore Bob Marley. Je dis mais ok, d'accord, pourquoi pas, mais Bob Marley était noir. Fait ouais, ouais. Et moi, j'aime bien Bob Marley. Je fais ok. Et j'ai vu dans ma rue des gamins qui ont 3 ans maintenant. Donc Bob Marley, il est mort à 81, donc ils étaient loin d'être nés. Leurs parents avaient 15 ans quand Bob Marley est mort, qui connaissent Bob Marley, qui chantent des chansons de Bob Marley. Bob Marley, c'est le seul personne qui est connu dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on va en Afrique, on connaît Bob Marley, on va en Asie, on connaît Bob Marley. Bob Marley, c'est quelqu'un d'universel, c'est quelqu'un qui rassemble, quoi. Qui rassemble par la musique, par les mots, par la poésie. Pour moi, c'est un prophète, Bob Marley. Je dis, pour moi, c'est plus qu'un chanteur, quoi. C'est quelqu'un qui est porteur d'un message d'avenir.
Mais
voilà.
Là, tu me touches vraiment quand tu dis que tu le prends pour un prophète, parce que le jour de sa mort, sur la cime, il a pété un dur orage, comme il n'en avait jamais pété depuis des mois et des mois.
Alors après, pour Bob Marley, c'est vrai que bon... Il y a l'image qu'on a aussi. Comme tu disais, ouais, il fume beaucoup. Mais il y a pas que ça. Moi, je pense que c'était un gars qui avait quelque chose en lui. Même s'il s'était contenté de boire du jus d'orange, je pense qu'il aurait été aussi doué, quoi. Je pense que l'herbe, c'est quelque chose qui devait l'aider à certains moments. Mais je pense qu'il y a pas que ça. Je pense que c'est quelqu'un vraiment qui, pareil, pour qui l'art, c'était pas seulement un loisir, quoi. Il a été porteur d'une mission. Il savait qu'il est mort jeune. Il savait qu'il avait des choses à accomplir avant. Et voilà. Et je pense qu'il l'a fait. Et c'est quelqu'un. Pour moi, c'est le personnage le plus important du 20e siècle, Bob Marley.
Ok.
Voilà.
Et en chanson française, quel est l'auteur, compositeur, interprète que tu aimes beaucoup ?
Léo Ferré. J'aime énormément Léo Ferré parce que c'est pareil, c'est quelqu'un d'engagé, c'est un poète, mais qui a décidé que la poésie était avant tout une chanson, une musique. Il disait la poésie est une rumeur, elle doit être entendue. Voilà, il disait pour une poésie, un poème doit être dit pour lui. Voilà, un poème, c'est comme une musique, ça doit être dit. Et donc rien que pour ça, je l'aime beaucoup. Pour moi, c'est un des gars qui faisait du slam bien avant l'heure, quoi, Léo Ferré. Après, Renaud m'a énormément nourri quand j'étais gamin. C'est pareil, c'est pour les chansons révoltées. Moi, j'aime bien les gens révoltés. En fait, voilà.
Bon, Julien, je vais mettre une dédicace pour toi.
Allez.
C'est Bob Marley. Est-ce que tu vas écouter Bob Marley? Voilà.
Ah, Bob Marley. J'ai pas de chanson de Bob Marley que je connais par cœur. Si, j'en connais une. Tu la connais aussi, Redemption Song?
All parents, yes, they're all by. Soul die from to the mansion ships. Minute after they took I from the bottomless pits. But my head was made strong by the hand of the Almighty, the son of this generation. Silently.
Alors, ce qu'il dit, elle est magnifique, cette chanson. C'est sa dernière chanson de Bob Marley. Il a joué à la guitare.
Help to sing. Yes, I.
Another songs of freedom. Cause all I ever had is redemption song. Voilà, cette chanson, elle dit plein de choses. Elle dit
this sound of freedom.
Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, voilà, elle dit, oh, ces vieux pirates, ils m'ont pris, ils m'ont déporté dans les bateaux d'esclaves, mais voilà, il faut qu'on s'émancipe nous-mêmes de l'esclavage mental, et voilà, il faut pas avoir peur. C'est une chanson d'espoir, et c'est une chanson pour moi qui, à chaque fois que je l'entends, elle m'émeut, et je me rappelle, on l'avait chanté une fois, je faisais un atelier à la prison de Los, donc avec les détenus, et on l'avait chanté à la fin. Il y avait quelque chose qui était passé entre nous. Alors moi, je suis pas quelqu'un d'illuminé, hein, je suis pas dans le mysticisme forcément, mais il s'était passé quelque chose, et je crois que tout simplement, cette chanson résonnait dans le cœur des gens avec une puissance incroyable. Et au-delà de nos histoires personnelles, il y avait un message d'espoir qui était passé, et c'est ça qui est fort chez Bob Marley. C'est pour ça que je pense que c'est quelqu'un qui est au-delà des modes, au-delà de tout. C'est quelqu'un qui résonne dans le cœur des gens, qui fait écho à leur propre souffrance, à leur propre espoir. Quelqu'un de formidable pour ça, Marley.
Fan Grégory Lemarchal.
Grégory Lemarchal.
Oui.
Là, par contre, je vais avouer mon inculture. Je crois que Grégory Lemarchal, c'est le jeune homme qui est mort là il y a pas longtemps, Copa. C'est ça, qui avait gagné la Star Academy.
Camille.
Je peux pas dire grand chose de lui parce que je connais vraiment pas ce qu'il chantait. Voilà, il est mort à 23 ans. C'est une catastrophe pour lui, pour sa famille, pour ceux qu'il aimait, mais je peux pas dire grand chose. Je connaissais pas malheureusement ce qu'il faisait.
Ah oui, beaucoup.
Voilà, donc.
Le chanteur, tout. Rêve, mais. La gagne en. L'année. Non.
Ouais, il est. Ben, je.
Riff. Pas.
Non, c'est triste, ouais. Non, mais c'est
l'ami.
Sûr. Ouais.
Je voudrais savoir si vous avez entendu parler des propos de...
Sevran, Pascal Sevran.
Oui, pardon, Pascal Sevran, pardon.
C'est des propos lamentables, c'est des propos pitoyables. Et moi, je pense, par contre, il y a quelque chose de grave. C'est qu'après des propos comme ça, on ne devrait plus présenter une émission grand public.
Paroles de femme, ça m'a l'air des paroles d'un homme frustré et infertile.
Oui, bien sûr. Non, mais voilà. Non, c'est des propos lamentables. Par contre, moi, je pense que, voilà, c'est des propos qui doivent être condamnés. Moi, j'espère qu'il y aura un procès qui sera condamné. C'est des propos qui sont pitoyables. Et moi, je pense que ce monsieur, voilà, mérite même pas à peine qu'on en parle. C'est quelqu'un qui a des propos minables. Voilà, c'est quelqu'un de minable qui a des propos minables, donc on va pas épiloguer sur ce gars-là.
Ouais, vraiment. C'est dommage qu'on finisse sur lui d'ailleurs.
Ouais, d'ailleurs sur Pascal Sevran, parce que voilà, sur la chanson, sur le son, on va peut-être finir sur un texte plutôt.
Je me présente Raoul Lavoisier, fondateur du mouvement pour une France blanche et chrétienne. J'ai réagi contre le communisme international qui pollue cette pièce.
Mais non, monsieur, vous ne pouvez pas dire des choses comme ça, monsieur. Ok, bien joué l'intervention radicale, comme il se doit. Non, bon, on va finir sur un petit texte.
Lyrics.
Un petit lyrics. Alors, ce texte-là, je l'aime beaucoup. Il s'appelle « Accord perdu ». C'est un texte voilà, qui parle de l'enfermement, tous les enfermements. Et d'amour, parce que voilà, au-delà de ça, il y a l'amour toujours. Je t'aime comme un tricard, comme un immatriculé. Je te rêve comme un bagnard, un taulard désarticulé. Béton angésine sur les rails de feu. Je devine un éclair de givre. Je m'enivre de ton secret. Je recrée un ciel à ton image, peuplé d'oiseaux mutants aux ailes d'orchidées. Je t'aime comme un tricard, comme un immatriculé. Je te rêve comme un bagnard, un taulard désarticulé. Je vois des bohémiennes qui jettent leur sourire au visage des flics. La matraque qui claque sur la nuque d'un enfant. Le charnier des innocents et la mémoire fossile. Les yeux des imbéciles qui voudraient oublier qu'ils sont toujours témoins des cris et des émois, et ce petit vaurien qui jette une grenade, une douce sérénade contre un fourgon blindé. Redonne-moi ton sang, je ferai de ma vie une fresque d'ouragan aux couleurs d'incendie. Et redonne-moi ton sang, je ferai de ma vie une fresque d'ouragan aux couleurs d'incendie. Les dépotoirs transgéniques ont la beauté confuse des étoiles qui infusent en secret dans la nuit, et la lune s'embrouille, se coince dans l'écluse, et l'ennui dans tes bras me semble si lointain comme le rêve d'une putain arrimée au bitume, une noce de brume. La valse des amants collée sur le ciment. Les banquiers des grands boulevards font des cauchemars affreux. Ils voient tous les lépreux qui réclament leur pitance, ma quittance de noyer. Je l'ai jetée au fleuve, qu'ils aillent la repêcher, car je sais que bientôt la chanteuse de fado s'envolera vers la mer et le sel de sa voix fermera nos silences. Je te ferai rimer avec n'importe quoi, avec le bruit du train, le métro qui aboie. Je te ferai rimer avec n'importe quoi, avec le bruit du train, le métro qui aboie. Tes cuisses sont un étau où je brise mes sangs, je badigeonne d'essence nos amour de papier au parloir, une ombre s'étrangle de souvenirs, le pire est à venir, ouvrons grand les prisons, la pollution pour tous, rendons l'air à tous ceux qui étouffent, aux braqueurs de soleil, aux voleurs d'horizon, je suis au diapason des rythmes de l'atoll, des graffitis qui pleurent au pied des cadenas, je sais un estuaire plus profond qu'un atoll, dans le cœur des damnés, dans les veines des parias coule le lait noir de l'absence, le dégoût du miroir et la déliquescence. Je t'aime comme un tricard, comme un immatriculé, je te rêve comme un bagnard, un taulard désarticulé.
Bravo.
Voilà. Merci beaucoup. C'est la fin de l'émission là ? Bon ben, un petit dédicace. Alors, merci aux entonnoirs. Merci à ceux qui continuent à faire jaillir la lumière du noir de la nuit. Toujours une petite voix qui clignote et cette voix ne s'arrêtera pas. Peace à tous. Merci beaucoup. Merci. C'était ma plus belle émission de radio. Peace à tous les entonnoirs 89.7 FM. Merci.
Ben, au revoir, chers éditeurs, chères éditrices. À la semaine prochaine.
Merci beaucoup, Julien, d'être venu à l'émission Les Entonnoirs.
Merci à vous encore, hein. Infiniment, et à bientôt, j'espère.
On a passé de bons moments avec toi, et à la prochaine, j'espère, aux Entonnoirs.
Je peux vous assurer qu'il a de la tchatch, des lyrics au kilomètre, que quand il commence à parler, il ne s'arrêtera pas jusqu'au bout de la nuit.
Chers éditrices, au revoir, à demain.
Merci beaucoup, Lucien. En 2007-2008, les chansons. Merci beaucoup. Salut, Lucien.
Merci.
Les entonnoirs. Vous savez, les entonnoirs, ce qu'on trouve dans les tornades.
Parce que c'est les entonnoirs, parce qu'il donne plus fou dans la tête, et ça gratte plus fou sur ma tête, et lui est plus fou, c'est ça les entonnoirs.